Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. 4 ans après, quelles images retenir des révolutions arabes ? Celles des dictateurs déchus, celles des soldats en armes ou celles des barbus ? Camille Leprince préfère les femmes en action. Cette chargée de mission au CCFD Terre Solidaire les met en scène dans 5 portfolios multimédia qu'elle consacre à l'Algérie, la Syrie, la Tunisie, l'Égypte et le Kurdistan. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
En 2011, dans la foulée de Tunis, les rues du Caire, d'Alexandrie, de Damas, Sanaa ou encore Bahreïn se sont embrasées. 4 ans après, que reste-t-il de ce que l'on a nommé les printemps arabes et surtout, quelle place les femmes y ont-elles tenu ? Pour en parler, nous recevons Camille Leprince, chargée de mission Maghreb-Mashrek au CCFD Terre Solidaire, le comité catholique contre la faim et pour le développement, et aussi réalisatrice du web-documentaire Fabrique Algeria, dont Orient Hebdo s'est fait l'écho l'an dernier. Bonjour.
Bonjour.
Camille Leprince, vous réalisez actuellement une série de portfolios multimédia consacrés aux femmes dans les révolutions arabes de 2011. Comment se présente votre travail et avec qui collaborez-vous ?
Pour moi, l'idée, c'était vraiment d'offrir à notre société, à nous, en France, mais aussi à des sociétés qui se connaissent mal entre elles aussi, entre le Maghreb et le Moyen-Orient, d'offrir des regards croisés. C'est-à-dire que je me suis dit, finalement, aujourd'hui, en France, quelle image on garde de 2011? Est-ce que les lendemains de 2011, finalement, on va garder que l'image de dictateurs, de soldats, de barbus, avec des kalachnikovs? Ou est-ce que finalement, il y a peut-être d'autres images à montrer, d'autres récits de vie, d'autres récits de combats collectifs ou individuels à montrer? Et comment les femmes peuvent nous aider à voir l'à côté et l'autre aspect des révolutions? Donc l'idée, c'est de travailler en fait avec un rappeur algérien, donc avec lequel j'ai déjà collaboré dans le cadre de mon projet Fabrique Algeria.
Diaz.
Qui s'appelle Diaz, tout à fait, et qui vient donc d'Alger. Et puis je me suis dit, finalement, ce qui est intéressant, c'est que souvent on a une image un peu figée des rappeurs, on a une image un peu figée aussi des hommes, parfois des hommes arabes encore plus. Et donc travailler avec quelqu'un qui vient d'un milieu qu'on pourrait a priori penser machiste sur les femmes, j'ai trouvé que c'était très intéressant comme contre-pied. Et lui, je crois que ça lui tient beaucoup à cœur aussi de montrer une autre image de cette culture urbaine, de cette culture hip-hop, et donc de travailler sur l'image de la femme à travers la poésie, le slam, le rap, et voir comment dans les textes aussi du patrimoine musical régional, l'image de la femme existe. Puis d'autre part, je vais collaborer aussi avec un graphiste qui lui aussi est algérien, que j'ai découvert également dans mon travail précédent, qui s'appelle donc Walid Bouchouchi, et qui, lui, travaille beaucoup sur la notion d'icône et d'imagerie populaire. Et il reprend des images, soit de l'imagerie populaire, du patrimoine national, soit des médias. Et donc, justement, avec cette mondialisation, il y a eu énormément de production d'images autour des révolutions. Et donc, il reprend des images comme ça pour les retravailler à sa sauce et questionner notre regard, finalement, dessus.
Alors, voilà pour le contenant, si je puis dire. Mais côté contenu, vous vous intéressez à 5 situations différentes, hein, à commencer par l'Égypte. L'Égypte qui a été assez emblématique ces derniers temps, avec notamment la mort de Shaima al-Sabag fin janvier. Donc là, on est aussi dans l'après-révolution, avec une place des femmes particulière et une lutte qui continue.
Tout à fait. Alors en Égypte, ce qui est assez dramatique, c'est que aujourd'hui, il y a quand même un retour qui, pour certains observateurs ou pour certaines personnes qui le vivent sur place, hein, certains militants disent finalement c'est pire que l'ère Moubarak. Donc on est vraiment dans une phase de contre-révolution. Et ce qui est assez symptomatique, ça a été finalement l'interdiction des commémorations de la révolution de 2011 par le régime actuel. Et donc parmi les gens qui ont refusé de s'astreindre à cette interdiction, il y a eu donc Shaima et d'autres des militants qui ont décidé de sortir malgré tout, mais qui sont sortis de manière pacifique, hein, simplement pour commémorer, pour se souvenir de tous ces gens qui sont morts pour espérer autre chose, un mieux vivre, un mieux être, une dignité. À l'époque, on parlait de justice sociale, de dignité, de pain, mais aussi de liberté. Et aujourd'hui, des gens qui sortent pour revendiquer ça à nouveau, mais juste pour commémorer aussi la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour ça, ils se font tirer dessus. Et ils risquent de mourir, comme Shaïma. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'est que Shaïma, ça a été une figure qui a été reprise pas mal dans tous les médias, où on voit cette femme couverte de sang qui est rattrapée par son ami, avec une foule autour. Et moi, j'ai trouvé que c'était une image assez émouvante. Et que cette femme, en fait, on en retient que c'était une militante de gauche, une militante de la justice sociale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Shaïma, c'était aussi une femme.
Une danseuse.
Voilà. En tout cas, qui était une femme passionnée par les traditions de son pays et en particulier les danses d'Alexandrie, puisqu'elle était originaire de cette ville. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, en fait, de rencontrer au fur et à mesure des gens de son entourage qui la connaissaient davantage sous cet aspect-là dont on a très peu parlé. Et finalement, c'est vrai que la danse, c'est aussi l'expression du corps. C'est aussi l'expression du féminin. C'est aussi l'expression de l'altérité, puisque les danses peuvent être à plusieurs, peuvent être hommes et femmes. C'est aussi l'expression d'une mixité sociale, puisque ça dépasse les frontières. Et par exemple, il faut savoir que Shaïma, elle collaborait avec un festival qui s'appelle Nassim El Raqs, qui a lieu tous les ans à Alexandrie, qui est un festival de danse dans la rue. Et c'est un festival qui est né avant la Révolution, puis qui a complètement explosé lors de la Révolution, parce que ça a répondu finalement totalement aux aspirations des gens de se réapproprier l'espace public, aux aspirations des femmes de pouvoir se montrer, exister dans leur corps, exister sous une forme d'expression nouvelle. Et puis en même temps, bah, ils continuent à se battre avec d'abord le régime des frères musulmans, puis ensuite les militaires qui sont de retour. Donc Shaïma, elle était aussi vraiment symbole de cette société civile arabe et de ces femmes qui continuent à incarner une révolution.
Dans votre travail, Camille Leprince, vous consacrez un portfolio multimédia à la Syrie. Et alors, la Syrie 2011, c'est la voix des femmes qui, enfin, peut accéder à l'ouverture, si je puis dire.
Alors la Syrie, bien sûr, on en a une image dramatique et c'est le cas, hein, c'est un chaos sanguinaire. Mais en même temps, les femmes, je pense à Razaï Zaitouneh, qui aujourd'hui est enlevée, dont on est sans nouvelles, mais qui a incarné vraiment la défense.
Depuis 14 mois.
Voilà, tout à fait. La défense des droits de l'homme et quelqu'un sans concession. C'est-à-dire quelqu'un qui était capable autant de dénoncer les violations des droits de l'homme du côté du régime que de dénoncer les violations des droits de l'homme du côté d'autres groupes armée terroriste. Donc c'est quelqu'un qui sur qui beaucoup de textes ont été écrits, hein, qui continue d'inspirer les femmes. À côté de ça, il y a aussi des femmes qui sont des citoyennes lambda qui écrivent sur Facebook, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui le blog ou Facebook ou Internet, en tout cas, est vraiment une manière de pouvoir exprimer son quotidien. Et curieusement, les femmes parlent beaucoup d'amour et elles disent à quel point être amoureuse, ressentir de l'amour pour les siens, pour ses enfants, pour ses proches, c'est aussi se sentir vivante, c'est aussi voilà, se sentir du sang couler dans les veines, se sentir une sève couler en soi qui fait qu'on arrive à résister au chaos. Et ça, c'est très fort. Et en fait, cette notion aussi de témoignage quotidien sur Internet, c'est quelque chose de très important, je crois, pour les femmes, pour tenir dans ce moment assez particulier de l'après-révolution. Et il y a notamment un projet donc qui s'appelle le projet des Nouvelles Antigones, avec lequel je vais probablement collaborer, qui en fait parle de ça, donc des blogueuses et des nouvelles formes d'écriture féminine dans la région méditerranéenne, et donc confronter les écritures féminines sur la rive nord et sur la rive sud.
Un mot, Camille Leprince, il y a encore deux autres portfolios, l'un sur la Tunisie, que vous appelez d'ailleurs la start-up démocratique.
Alors j'ai repris quelque chose qui a été dit dans les médias, hein, et je mets avec beaucoup de guillemets, parce que justement, on a une vision parfois un peu idéalisée de la Tunisie, à laquelle on prête un visage très souriant. En même temps, sans lui donner forcément toutes les possibilités de s'épanouir réellement. Je pense, bien sûr, là, quand je dis ça, aux institutions internationales, au gouvernement, etc. Donc là, en Tunisie, je m'intéresse particulièrement à la condition des femmes ouvrières, à la condition des femmes de l'intérieur du pays, à celles qui ont été aussi, par exemple, les mères de martyrs de la Révolution, mais qui ont été aussi les femmes et les mères de ceux qui sont révoltés dès 2008 dans le bassin minier de Dadaïev, qui a constitué vraiment une première révolte terreau de la révolution de 2011. Et en particulier, je me suis intéressée à un poème d'Ala Talbi, qui est un jeune homme donc qui est à la fois directeur du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, qui est un partenaire du CCFD Terre Solidaire, mais qui est aussi poète, membre du réseau Street Poetry, et qui a écrit un poème qui s'appelle « Et voilà que nous t'avons assassiné », qui est une métaphore en fait d'un dialogue entre un jeune homme martyr et qui s'adresse à un féminin qui est à la fois sa patrie, qui est à la fois sa mère, qui est à la fois sa bien-aimée et sa sœur. Et donc ça parle de cette révolution pour laquelle il continue à se battre malgré tout, mais voilà, qui risque toujours d'être assassiné comme les martyrs.
Finalement, ce que vous cherchez dans votre travail, c'est de montrer la femme sous un autre angle que la victimisation habituelle.
Oui, alors en fait, ce que je cherche, c'est non seulement à la faire sortir du statut de victime, mais à la faire sortir aussi d'un statut parfois d'héroïne, un peu orientalisée, un peu érotisée aussi parfois. Donc je crois que ce que je cherche, c'est de questionner nos représentations et de confronter vraiment leur expérience, leur vécu avec nos représentations à nous, et d'essayer de trouver peut-être des icônes qui puissent nous permettre de mieux comprendre le combat des femmes aujourd'hui, mais aussi de déconstruire un certain nombre de clichés autour de l'image des femmes.
Merci Camille Leprince, chargée de mission au CCFD Terre Solidaire et réalisatrice du web documentaire Fabrique Algérie. Rappelons que chacun des portfolios multimédia dont nous venons de parler sera publié par un média en ligne français et parallèlement par un média indépendant du pays concerné.
Tout à fait.
Merci. Depuis les révolutions arabes, le groupe de rock libanais Mashrou Leila est devenu l'incubateur des identités et des revendications pour un monde plus libre et ouvert. Une voie musicale à suivre. Raxi Leila, du groupe rock libanais Mashrou Leila, qui sera présent au Printemps de Bourges en France le 26 avril prochain.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la visite du secrétaire d'État américain John Kerry fait la une des journaux du Golfe.
Oui, et une visite destinée à calmer les appréhensions des pays de la région avec l'approche d'un accord éventuel américano-iranien sur les nucléaires, indiquent les journaux. Alors, selon eux, les pays du Golfe craignent que cet accord ne se fasse à leur détriment et laisse le champ libre à l'Iran pour exercer un pouvoir d'ingérence régionale. La plupart des pays du Golfe comptent une large communauté chiite, parfois même la majorité, comme au Bahreïn ou dans l'est de l'Arabie Saoudite, une zone riche en pétrole, une communauté qui a déjà exprimé sa grogne sociale et même politique et qui pourrait être encouragée par les ayatollahs chiites iraniens à se soulever. En tous les cas, pour un éditorialiste, c'est le conflit millénaire sunnite-chiite, mais aussi arabo-persan.
Alors, une autre visite fait la une de la presse israélienne, cette fois, Michel Paul, c'est celle de Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Une presse plutôt déçue.
La montagne a accouché d'une souris. C'est de cette façon qu'un commentateur résume la situation. Un beau discours présenté avec brio, ajoute un chroniqueur, mais sans rien de nouveau. Après la poussière des étoiles, c'est un dur retour à la réalité pour Netanyahou, souligne l'éditorialiste du Haaretz. L'échec du Premier ministre pour le journal ne réside pas tant dans ses idées que dans sa façon d'agir. Un commentateur dans Maariv qualifie Netanyahou d'anti-héros. La balle est désormais dans le camp de Téhéran, poursuit le journal. Israël Hayom, le quotidien proche du Premier ministre, se félicite bien entendu de ce discours. Un moment historique, proclame le journal, un véritable réquisitoire contre les crimes iraniens, écrit même un chroniqueur du quotidien. Le journal s'en prend également, et une fois de plus, à ce qu'il qualifie de campagne organisée par la presse en Israël contre le Premier ministre.
Michel, ce discours au Congrès américain a-t-il eu des répercussions dans les sondages ?
Pas vraiment. Eric, à 10 jours des élections, les sondages n'arrivent pas à départager les deux principaux partis. Le Likoud et l'alliance centre-gauche, qui porte le nom d'Union sioniste, sont toujours dans un mouchoir de poche. Mais pour tous les spécialistes, il semble évident que c'est Benjamin Netanyahou qui aura le plus de facilité pour mettre sur pied une coalition gouvernementale viable. A pu à signaler aussi que, selon un sondage Maariv, 53% des Israéliens ne pensent pas qu'il soit possible d'arrêter le programme nucléaire iranien par la voie diplomatique. Et puis à la question « Souhaitez-vous voir Netanyahou Premier ministre ?» Eh bien, 46% des Israéliens répondent par oui, 44% non.
Beaucoup d'intérêt dans les journaux arabes, Alexandre Bouchanti, pour l'offensive irakienne contre la ville de Tikrit, une ville occupée par le groupe État islamique.
Oui, et si tous les journaux s'accordent sur les progrès militaires irakiens dans la province de Salahuddin, dont Tikrit est la capitale, ils divergent par contre dans leurs analyses. Alors pour certains éditorialistes, les derniers combats ont démontré la surestimation de la puissance militaire de Daesh, le nom donné en arabe au groupe État islamique. Selon eux, la libération de la province pourrait se faire beaucoup plus rapidement que prévu par les Américains. Mais d'autres éditorialistes sont préoccupés par ce qu'ils perçoivent comme étant une guerre sectaire entre chiites et sunnites. L'armée régulière irakienne est en effet soutenue par des milices chiites, mais aussi par des éléments de l'armée iranienne. Des sunnites qui continueront à s'opposer au pouvoir de Bagdad, même après la défaite de Daesh, selon ses analystes.
Avec cette question qui revient souvent dans vos journaux, Alexandre, les membres du groupe État islamique sont-ils musulmans ou mécréants ?
Alors, une polémique qui a éclaté sur les pages des journaux égyptiens et arabes après une déclaration du grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, qui est la haute autorité morale de l'islam sunnite, et qui considère Daesh comme des khawarij, c'est-à-dire une secte musulmane radicale qui s'était soulevée contre le calife Ali ibn Abi Talib et que ce dernier avait écrasé par les armes. Alors, pour certains oulémas, il faut aller plus loin et décréter que les fidèles de Daesh sont en réalité des infidèles, et pour ceci pour arrêter le flot de volontaires qui vont tous les jours rejoindre les rangs du groupe État islamique. Mais d'autres vont encore plus loin et estiment qu'il faut combattre l'idée même d'un État islamique et jeter les bases d'un État séculier.
Retour sur des choses plus matérielles avec la perspective des élections législatives du 17 en Israël, Michel Paul. Un document circule et pourrait changer la donne.
Oui, c'est le scoop de Yedioth Ahronot que probablement Netanyahou aurait préféré ne pas voir, même si son entourage tente de démentir l'authenticité de ce document. Alors, le document des concessions, titre le journal, le Premier ministre, lors de la précédente législature, aurait accepté le retour aux frontières de 67, un accord sur Jérusalem et aussi le droit de retour des réfugiés palestiniens avec une présence palestinienne dans la vallée du Jourdain. Eric, c'est à peu près ce que la gauche propose. Alors les partis nationalistes l'affirment, les masques sont tombés en pleine période de Pourim, le carnaval juif.
Alexandre, le remaniement ministériel en Égypte occupe toutes les unes de la presse du Caire.
Oui, c'est évidemment le ministre de l'Intérieur limogé, le général de police Mohamed Ibrahim, qui fait l'objet de tous les commentaires. Alors, il est accusé d'avoir échoué dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi d'avoir provoqué une inimitié entre les mouvements révolutionnaires et le pouvoir par une répression débridée. La presse se demande aussi si le nouveau ministre de l'Intérieur, un autre général de police, Magdi Abdelrafar, a été nommé pour réformer les forces de l'ordre ou pour durcir la répression contre les frères musulmans.
Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, ce sont les photos d'enfants déguisés à l'occasion de Pourim, le carnaval juif, mais aussi des adultes et même des politiciens.
Merci Michel, merci Alexandre, à la réalisation François Porcheron. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI. Littérature.